إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، فما زلنا مع قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. وبحمد الله عز وجل قد توقفنا في درسنا الماضي عند باب وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا ينافي أو لا تنافي بينهما. نعم، فأخانا نعم، بارك الله فيك.
باب وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
بارك الله فيك. طيب، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم. فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هذا تقرير وتأكيد لما سبق من ذكر علوه على عرشه وكونه مع خلقه بذكر اسمين من أسمائه سبحانه، وهما الرقيب والمهيمن. الرقيب والمهيمن. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب معناه هو المراقب، المراقب لأحوال عباده، وفي ذلك دلالة على قربه منهم. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أما المهيمن فهو الشاهد على خلقه المطلع على أعمالهم الرقيب عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هذا هو قول المؤلف: إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، أي أن مقتضى ربوبيته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته ويطلع على أعمالهم ويكون قريبا منهم بعلمه وإحاطته، يصرف شؤونهم ويحصي أعمالهم ويجازيهم عليها. Donc il dit ici l'auteur رحمه الله شيخ الإسلام, il dit que Allah سبحانه est au-dessus de son trône et qu'il est raqib, c'est-à-dire qu'il observe ses créatures. Muhaiminun alayhim, qu'on va voir inshallah le sens de raqib, qui est un nom d'Allah, al-raqib, et le sens de al-muhaymin, qui est aussi un nom d'Allah, al-muhaymin, muttali'un alayhim, hein? Et que donc Allah, il est informé sur eux, de tout ce qu'ils font. Donc il dit cette phrase-là, Cheikh Al-Fawzan, fidhaullah, est une affirmation et une insistance sur ce qui avait déjà été mentionné auparavant ou avant cette phrase-là dans ce chapitre, concernant, vous rappelez, la mention du fait que Allah tabarak wa ta'ala est au-dessus et qu'Allah il est en haut de son trône, et également par rapport au fait que Allah tabarak wa ta'ala il est avec ses créatures. Donc là, à la fin du chapitre, le Cheikh Al-Islam, il appuie, il insiste sur ces deux notions-là, à travers cette phrase de conclusion. Et également en mentionnant, donc, dans cette phrase-là, deux des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui sont Al-Raqib et Al-Muhaymin. Il dit, Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la sourate Al-Nisa, dans le sens rapproché, certes, Allah, il observe tout ce que vous faites. Raqibun. Donc, al-raqib, qu'est-ce que ça veut dire? C'est al-muraqib, celui qui observe, qui surveille les faits et gestes des créatures, les états et les situations de ces créatures. Et ce verset-là, donc, où le nom d'Allah Ar-Raqib, nous indique qu'Allah Jalla wa Ala est proche de ses créatures. Il est proche de ses créatures de par sa surveillance et de par son observation de ses créatures. Quant au nom Al-Muhaymin, on le trouve dans le verset 23 de la Surah Al-Hashr. Dans le sens rapproché, Allah dit, c'est Allah en dehors duquel il n'y a pas de divinité méritant l'adoration. Al-Malik, le souverain. Al-Quddus, Al-Tahir, Al-Munazzah, An kulli uyub, An kulli aib. Donc Al-Quddus, c'est celui qui est pur, celui qui est exempt de tout défaut, de toute imperfection. Ça, c'est le Quddus. Al-Salam. Al-Salam. Et Al-Ladhi Salima minhu man amana bihi subhanahu wa ta'ala. Wa salima min azabihi yawm al-qiyama idha amana bihi. Al-Salam, c'est celui dont les créatures sont à l'abri de son châtiment si elle a cru en lui. C'est celui dont la créature est à l'abri de sa colère le jour de la résurrection si elle a cru en lui. Ça, c'est le sens de As-Salam, le nom d'Allah. As-Salam. Naam. Al-Mu'min. Al-Muhaymin. Donc, Al-Muhaymin, il est très proche du sens de Ar-Raqib. Voyez. Car le sens de Al-Muhaymin, c'est Al-Shahid, le témoin. Celui qui témoigne, celui qui atteste de ses créatures et qui est informé de toutes les œuvres de ses créatures. Ar-Raqib alayhi. Donc on voit qu'Ar-Raqib et Al-Muhaymin, ces deux noms-là sont très proches l'un de l'autre. Ils expriment tous les deux donc le fait qu'Allah, Jalla wa Ala, il observe et il est informé des faits et gestes et de tout ce que font les créatures ainsi que de leurs états. Puis il dit il a ghayri dhalika min ma'ani rububiyyatihi. C'est-à-dire que rentre dedans également tout ce qui est lié aux notions qui sont impliquées par sa seigneurie, la seigneurie d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc la seigneurie al-rububiyya, le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala possède la seigneurie absolue sur ses créatures, na'am, eh bien implique qu'il est au-dessus d'elles. De par son être, son soi, il est au-dessus, bidhatihi, au-dessus de ses créatures. Et implique aussi que Allah Jalla wa Ala est informé de tout ce que font les créatures. Et qu'il est proche donc d'elles, de par sa science, et qu'il cerne toutes choses de par sa science. Et c'est lui qui gère les affaires de ses créatures comme il l'entend, et qui donc dénombre et enregistre les œuvres des créatures et qui va les rétribuer le jour du jugement. Donc toutes ces choses-là, en vérité, sont comprises dans la seigneurie d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc on doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala. On doit croire qu'Allah jalla wa ala, il est unique dans toutes ces choses-là. D'accord ? Dans toutes les choses qui sont impliquées et nécessairement inclus dans la seigneurie, ar-rububiyya, que ce soit la création, la royauté, la gestion de cet univers, l'ilm, le fait qu'ils sont informés de tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense. Tout ça rentre dans tawhid ar-rububiyya. On doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans chacune de ces choses-là. Non.
باب ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
حسبك، بارك الله فيك. طيب. إذا ننتقل إلى الباب التالي، وهو باب ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته وسبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك أو أدلة ذلك. طيب. الشرح. يبين الشيخ رحمه الله تعالى ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه من كونه فوق العرش وهو معنا، أنه يجب الإيمان به كما أخبر الله ولا يجوز تأويله، ولا يجوز تأويله ولا يجوز صرفه عن ظاهره كما يفعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فيزعمون أن ذلك ليس حقيقة وإنما هو مجاز، فيؤولون الاستواء على العرش بالاستيلاء على الملك، وعلو الله على خلقه بعلو قدره وقهره ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي هي تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه. ومنهم من يقول إن معنى كونه معنا أنه حال في كل مكان كما تقوله حلولية الجهمية وغيرهم من الصوفية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc on passe au prochain chapitre بإذن الله عز وجل qui est celui intitulé « Ce qui est obligatoire de croire concernant la hauteur d'Allah tabarak wa ta'ala et son accompagnement et le sens du fait qu'Allah tabarak wa ta'ala est dans le ciel » et on verra que ça a le sens de « au-dessus du ciel » ou « en hauteur » et les preuves de cela. Donc il dit ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous expose ici ce qui est obligatoire de croire par rapport à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a dit et informé sur lui-même en nous disant qu'il est au-dessus de son trône et qu'il est avec nous. Il est donc obligatoire de croire cela comme Allah nous l'a informé. Et il est interdit par conséquent de donner une interprétation à ces choses-là ou de faire dériver ou de dévier le sens authentique apparent vers un autre sens qui est faux et qui n'a aucun rapport avec le sens apparent, comme l'ont fait Al-Mu'attila, les négationnistes parmi les Jahmiyyah et Al-Mu'tazila et ceux qui ont suivi leur manhaj, qui prétendent donc que Allah tabarak wa ta'ala n'est pas vraiment en haut et que Allah tabarak wa ta'ala n'est pas véritablement au-dessus du trône, mais ils disent que ce n'est qu'une image, une métaphore symbolique, mais qu'en réalité ce n'est pas vrai et que Allah tabarak wa ta'ala n'est pas au-dessus. Donc, pour justifier leur croyance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interprété le mot istawa. D'accord? Istawa qui veut dire à la base irtafa'a. Élevé, s'élever. Taïm. Et donc, ils ont commencé à transformer et à altérer le sens des mots. Et ils ont dit que al-istiwa, il a le sens de al-istila. Et al-istila, c'est la conquête, le fait de conquérir quelque chose, prendre quelque chose. Quand tu conquiers un pays, une ville, un poste, on appelle cela en arabe al-istila. D'accord? Donc ils disent qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a conquis le trône. Il ne s'est pas élevé au-dessus, mais il a conquis. Il a pris. Il s'en est emparé, comme il s'est emparé soi-disant de la royauté. Quand toi tu dis que un tel s'est emparé de la royauté, ça veut dire qu'avant il ne l'avait pas. Quand tu dis que un tel a conquéri un pays, c'est qu'avant il n'avait pas conquéri, il n'avait pas ce pays là donc ça voudrait dire qu'Allah avant n'avait pas l'arche, n'avait pas la royauté absolue, etc. Non. Bien sûr, pour l'être humain, bien sûr. L'être humain, il y a des choses qu'il n'a pas, il y a des choses qu'il peut avoir, hein, en faisant les causes nécessaires. Mais Allah, tabarak wa ta'ala, tu ne peux pas affilier à Allah al-istila. Voyez ? Non. Et donc, pour aussi justifier leur croyance, ils disent que la hauteur, lorsque Allah, tabarak wa ta'ala, il utilise la notion de al-ulu, la hauteur. Ils disent que c'est la hauteur de la, au niveau de la valeur d'Allah, l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est haut, mais il n'est pas haut de par son être. Il est haut de par sa valeur, son importance. Ou alors ils disent qu'il est haut de par sa domination sur ses créatures. Ça y est ? Donc en vérité, ils ont affirmé deux facettes d'Allah tabarak wa ta'ala, qui est la hauteur de la valeur, la hauteur de l'importance, et ainsi que la hauteur de la domination. Voyez, donc ils ont affirmé ces deux facettes là qui les arrangent, qui les reconnaissent, mais ils ont renié la troisième facette, qui est le fait qu'Allah il est au-dessus de ses créatures, et qu'Allah il est au-dessus de par son être, de son soi, il est au-dessus de son trône, et le trône est au-dessus de toutes ses créatures. D'accord? Alors Ahl Sunnah wal Jama'a, on l'a vu déjà, reconnaissent les trois forme de hauteur. La hauteur, bien sûr, Allah il est haut. Allah il est de par sa valeur. Allah il est haut de par sa domination, sa suprématie, mais aussi il est haut de par son être. Allah il est pas en dessous des créatures ou avec ou à côté des créatures. Allah il est en haut des créatures. Il est au-dessus de ses créatures. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non. Donc, ils ont altéré les sens, voyez, et la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ils les ont déviés de leur sens premier et apparent. Parmi eux, certains disent que quand Allah jalla wa ala dit qu'il est avec nous, hein, dit qu'il est avec nous, comme dans le verset, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. Ils ont pris ce verset-là pour justifier aussi le fait de croire que Allah, il est mêlé à ses créatures. Il est mélangé et il est mêlé, hein, à côté d'une promiscuité totale avec ses créatures. D'ailleurs, comme le croit Hululiyatu al-Jahmiya, d'accord, l'ashab al-Hulul, ceux qui disent qu'Allah, il est mélangé, mêlé avec ses créatures, parmi les Jahmiyyah et parmi aussi certains, parmi les Soufiyyah et autres. Et bien sûr, Allah, il est au-dessus, hein, de tout ce qu'ils disent comme mensonge. D'ailleurs, c'est clair, les frères? Vous voyez? D'ailleurs. وقوله رحمه الله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تذله. تقله أي تحمل، أن السماء تحمل الله تبارك وتعالى، أو تذله أي تستره. وظل هي الشيء الذي يذلك من فوقك، الظل المظلة ظل. وليس هذان المعنيان مرادين في كونه سبحانه في السماء، ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ، وذلك لأمرين. Puis il dit l'auteur, رحمه الله تعالى, mais bien que on croit que Allah tabarak wa ta'ala, il est fils sama, d'accord, il est au-dessus du ciel et de ses créatures, il faut faire attention à ne pas partir dans certaines pensées ou certaines croyances qui sont fausses concernant notamment l'apparence de la parole fils sama,
On l'a vu déjà, yani, d'accord, fissama. A'amintum man fissama, fi surat al-mulk. Allah il dit A'amintum man fissama. D'accord ? Donc, fi, ça peut désigner le fait d'être à l'intérieur de quelque chose. Nahnu fi al-masjid. On est dans la mosquée, d'accord ? Juste avec le harf fi. Taïb. Mais bien sûr, fi peut désigner d'autres choses. Donc, lorsque Allah il dit A'amintum man fissama, êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel ? Fissama, tu ne dois pas penser ou croire que le ciel porte Allah, ou qu'Allah serait porté par le ciel, par exemple, ou que Allah Jalla wa Ala aurait le ciel au-dessus de lui, qui lui ferait donc de l'ombre. Hein? Parce que, comme il dit ici, Adhil ou Adhullah, c'est un objet qui te fait de l'ombre. D'accord ? Un parasol, dhulla. Le parasol, dhulla. Tu peux dire aussi midhalla. Taïb ? Mais bien sûr, donc, ces deux sens-là, qui sont le fait que les nuages, le ciel plutôt, porte Allah, ou que Allah est en dessous du ciel, ce n'est pas le sens ici de la parole fi sama. Fi, qui veut dire dans, na'am. As-sama, le ciel. Celui qui pense, qui penserait ça, bien sûr, eh bien, il aura eu une croyance totalement erronée, mais vraiment, vraiment erronée, vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. ذلك الأمر. الأمر الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان. فقد أجمعوا على أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية السماء المبنية التي نراها ففي بمعنى على إذن حرف في قد تكون بمعنى على الدليل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل أي على جذوع النخل طيب وإن أريد بالسماء العلو لأن السماء كلمة قد تراد بها العلو فكان المعنى في السماء أي في العلو وانتهى أو انتهت الشبهة والله تعالى أعلم. Donc on répond à ceux qui croiraient que Allah il est à l'intérieur du ciel, porté par le ciel ou en dessous du ciel, etc. On leur dit deux choses. La première, que cette croyance là s'oppose totalement au consensus des gens de science, hein, de la Ummah, qui sont unanimes sur le fait qu'Allah, Jalla wa Ala, est au-dessus de son trône et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est séparé de ses créatures. D'accord ? Il n'y a pas de promiscuité ou de contact entre Allah et ses créatures. Physique, yani. Voyez ? Donc il n'y a pas dans l'être d'Allah, dans le soi d'Allah tabarak wa ta'ala, une chose qui serait une créature. Il n'y a rien dans Allah qui est une créature. Comme il n'y a rien dans les créatures qui fasse partie de l'être d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc Allah est totalement distinct de ses créatures. Hein? Pas comme croient ashab wahdat al-wujud. Eux, ils sont pires encore que les premiers. Les premiers, yani ashab al-hulul, qui disent qu'Allah il est, hein, avec ses créatures, il est avec eux, mais ils reconnaissent qu'il y a une séparation entre Allah et les créatures. Alors qu'ashab wahdat al-wujud, c'est pire. Ils disent qu'Allah il est à l'intérieur de ses créatures et que les créatures sont à l'intérieur d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils sont mélangés, totalement mélangés. Hein? L'exemple que donne certains ulama, quand tu prends un verre d'eau et que tu mets un morceau de sucre dedans, ça c'est le hulul. Le sucre là, il est dans le verre, il est dans l'eau, il bouge pas. Mais si tu commences à tourner et à rendre le morceau en poudre, il va se mélanger. Ça c'est Ashab Wahdat al-Wujud. Ils disent qu'Allah il est mélangé avec sa créature. Ils ne font qu'un. Donc quand tu vois un chien ou un porc, ils te disent Allah. Hein? Ta'ala ma'an dalik a'roun kabira. Très. Et donc on a vu le tafsir concernant notamment la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de la surat al-Mulk. A amintum man fissama. Êtes-vous à l'abri de celui qui est fissama. Fi assama. D'accord? Donc ici il y a deux choix dans le tafsir. Soit on dit que assama il a le sens du ciel édifié par Allah qu'on voit quand on lève les yeux. Hein, on voit Assama avec les astres, etc., etc. Donc, si ce qui est visé par Assama ici, eh bien, Fi aura le sens de Ala. Il faut savoir que les huruf de la langue arabe, Fi, Ala, An, Min, etc., peuvent avoir des sens différents selon le contexte. D'accord ? Donc, ils disent que si Assama, c'est le ciel qui est édifié par Allah que l'on voit quand on lève les yeux, et bien fi il a le sens de ala qui veut dire au-dessus, et fi pour avoir le sens de ala. La preuve, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala tayyib, lorsqu'il dit dans le sens rapproché wala usallibannakum, et je vais vous crucifier. Hein? Usallibannakum, c'est à dire crucifier une personne. À l'époque vous savez que lorsqu'il voulait exécuter ou torturer, il crucifiait la personne sur la croix, d'accord, et il le clouait sur cette croix là. Taïeb fi, Allah il dit fi juzu'in nakhli. Donc on a fi qui peut vouloir dire dans, à l'intérieur, mais on a juzu'i qui veut dire les troncs. Des troncs de quoi? De palmiers. Des troncs de palmiers. Donc est-ce que la personne, quand elle est crucifiée, est-ce qu'on l'a mis dedans le tronc ou sur le tronc? Hein? Sur le tronc. Tu la mets pas à l'intérieur du tronc. Donc elle est crucifiée sur, à la surface du tronc. D'accord? Donc là, c'est la preuve que fi, il a le sens de hala. Il n'a pas le sens de à l'intérieur de. Il a le sens de sur. Vous voyez? Et si, parce que Assama, le mot Assama, il peut vouloir dire aussi la hauteur. D'accord? Assama, c'est pas uniquement le ciel que l'on voit, mais ça peut désigner la hauteur. D'accord? Dans ce cas-là, Fi gardera son sens de base qui est Fil-Ulu. Allah, il est en hauteur, c'est tout. Et ce qui est vrai. Donc les deux tafsir, que ce soit l'un ou l'autre, yani, va nous servir à réfuter ce que ces gens-là croient. Et comme on l'a déjà répété, toutes les ambiguïtés que Ahl al-Dalal, les gens de l'égarement, ou les sectes égarées dans l'islam, t'apportent avec des preuves, hein, parce que les gens qui vont dire Allah, il est sous le ciel, ou Allah, il est sur le ciel, etc., etc., ils vont te sortir ce verset-là. A'amintum man fissama. Hein? Tu regardes, Allah, il a dit fissama. Et dans la langue arabe, fi, ça veut dire dans. Donc toi, si tu n'as pas appris ce chapitre-là, il va te mettre une choubha. Tu vas rentrer chez toi, tu ne seras pas bien. D'ailleurs, mais comme on a dit, toutes les preuves que ces gens-là t'amènent, tu peux prendre ces preuves-là et tu les retournes contre eux. En vérité, ils ne le savent pas, mais ces preuves-là, elles sont contre eux. Elles ne sont pas avec eux, elles sont contre en vérité. Mais c'est malheureusement leur passion qui a pris le dessus, ainsi que l'ignorance qui a pris le dessus, et qui font qu'ils se servent de certains versets pour justifier leur croyance, alors qu'en vérité, païens, ces versets-là sont contre eux.
Allah musta'an.
الأمر الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه كما في قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي مخلوق عظيم بين يدي الله الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش عفوا يعني أمام العرش وهو أعظم من السماوات والأرض والعرش أعظم منه الكرسي أعظم من السماوات السبع والأراضين السبع لكن العرش أعظم من الكرسي فإذا كانت السماوات والأرض أصغر من الكرسي والكرسي أصغر من العرش فالله جل وعلا أعظم من كل شيء فكيف تحويه السماء أو تقله أو تذله وكذلك قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فهذه الآيات تدل على أن السماوات والأرض بحاجة إليه سبحانه فهو الذي يمسكها أن تزول أو تقع أو يكون قيامها بأمره وحده فلا يعقل مع هذا أن يكون سبحانه وتعالى بحاجة إليها سبحانه كيف يعقل أن الله جل وعلا يحتاج إلى السماء مثلا أن يحمله سبحانه وتعالى لتقله أو تذله تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا Donc la deuxième chose que l'on dit à ces gens-là, eh bien, que cette croyance-là s'oppose et rentre en collision avec les preuves aussi, avec les preuves coraniques qui nous indiquent la grandeur d'Allah tabarak wa ta'ala et que Allah tabarak wa ta'ala n'a pas besoin de ses créatures. N'a pas besoin de ses créatures. Au contraire, ce sont les créatures tout entières qui ont besoin d'Allah tabarak wa ta'ala et le ciel en fait partie. Naam, Allah jalla wa ala dans le sens rapproché, il dit son coursi, d'accord, son coursi, le pose-pied, déborde les cieux et la terre. Son coursi déborde les cieux et la terre. Donc le coursi, c'est une créature énorme. Imagine as-sama. Nous, le ciel que l'on voit, c'est le premier ciel. Il y en a sept. Il y a sept cieux. Et vous savez que chaque ciel, par rapport au suivant, il est tout petit. Que dire alors du septième, subhanallah ? Taïeb ? Eh bien, Al-Kursi, qui est énorme et qui déborde les cieux et la terre, il est devant le trône. Il se trouve devant le trône. Et le trône, lui, il est plus grand que le coursi. Le trône, il est encore plus grand que le coursi. Donc si ces cieux et ces terres qui sont plus petits que le coursi, et que le coursi, lui, il est plus petit que le trône, eh bien sache qu'Allah, lui, il est plus grand que toutes ces choses-là. Comment peux-tu dire qu'Allah il est porté par le ciel? Subhanallah. Ou comment peux-tu dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est ombragé par le ciel? Hajib. Yani, où est la raison de ces gens-là? Comment le ciel peut-il englober et contenir notre Seigneur subhanahu wa ta'ala ou lui faire de l'ombre. Et également la parole d'Allah quand il dit, certes Allah retient les cieux et la terre pour ne pas qu'ils s'effondrent et qu'ils s'affaissent. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit aussi, et il retient le ciel pour pas qu'il ne tombe sur la terre, sauf par sa permission. Et parmi ces signes, le fait que le ciel et la terre tiennent debout par son commandement, de par son ordre. Donc qui c'est qui a besoin de l'autre en vérité? C'est les cieux. Ce sont les terres qui ont besoin d'Allah tabarak wa ta'ala pour ne pas s'effondrer, pour ne pas s'affaisser. Et pas l'inverse. Donc tous ces versets-là nous montrent que les cieux et la terre ont besoin d'Allah tabarak wa ta'ala pour rester et aller debout. Et c'est lui donc qui les retient pour ne pas qu'ils tombent et qu'ils s'affaissent, voyez, et qu'ils, s'ils ne tiennent, ils ne tiennent que par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc avec tout ça, comment peut-on concevoir, comment peut-on penser qu'Allah aurait besoin du ciel, hein, pour être porté, pour que le ciel lui fasse de l'ombre, ce genre de sottises, hein? Non. Donc Allah il est élevé de toutes ces choses là et il est très facile de répondre à leurs ambiguïtés à condition que on s'assoit et on apprend, hein, les bases de notre religion qui est Tawhid. D'accord. Donc Tawhid, vous savez que ce n'est pas uniquement le Tawhid dans l'adoration, mais c'est Tawhid aussi dans les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est ce qu'on est en train d'étudier, d'accord. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est un domaine et un chapitre dans lequel sont égarés beaucoup de gens, plus que vous ne le croyez, des gens qui sont proches de nous, d'accord. C'est pas des gens qui seraient dans un pays lointain, non, ils sont là, ils sont avec nous. Taïm, non. C'est clair les frères? D'accord. Alhamdulillah. Ça y est. Akhana, naïm.
Bab wujub al-imal bi qurbihi min khalqihi wa anna dhalika la yunafi 'uluwahu wa fawqiyyatahu. Qala rahimahullah, fasl, wa qad dakhala fi dhalik al-imal bi annahu qarib mujib. كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه.
أحسنت. طيب فننتقل إلى باب وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لما قرر المصنف وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه نبه في هذا الفصل إلى أنه يجب مع ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه وقوله وقد دخل في ذلك أي في الإيمان بالله الإيمان بأنه قريب أي قريب من خلقه مجيب لدعائهم كما جمع بين ذلك أي بين القرب والإجابة في قوله وإذا سألك عبادي عني. Donc on passe au chapitre suivant, بإذن الله عز وجل, qui concerne l'obligation de croire qu'Allah il est proche de ses créatures. Allah il est au-dessus, mais il est proche de ses créatures. Et que cela donc ne contredit en rien la hauteur d'Allah, le fait qu'Allah il soit au-dessus de ses créatures. Donc il dit Une fois que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a affirmé l'obligation de croire qu'Allah il est au-dessus de ses créatures et qu'Allah jalla wa ala, il est élevé, établi au-dessus de son trône, ici il souligne une chose dans ce chapitre-là, que malgré tout ça, il est obligatoire de croire qu'Allah il est proche de ses créatures. Donc Allah il est au-dessus de nous, de toutes les créatures, mais Allah il est proche aussi de nous. Sans aucun doute. Hein? Donc, rentre dedans la foi au fait que Allah tabarak wa ta'ala est proche de ses créatures et qu'il répond à leurs demandes, aux invocations. Et qu'il répond à leurs invocations. Comme Allah l'a réuni dans sa parole, « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي » dans le sens rapproché, et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, fa'inni qarib, je suis proche. Ujibu da'wata da'i idha da'an, et je réponds à l'invocation de l'invocateur quand il m'invoque. Taïm. Idhan, al-ijaba. Al-an mas'ala al-ijaba. الإجابة إجابة الله تبارك وتعالى في تفسير السلف في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذه الإجابة قد تكون إجابة للسائل وقد تكون إثابة للعابد لأن الدعاء قسمان دعاء مسألة ودعاء عبادة طيب فكل عبد مؤمن يسأل الله تبارك وتعالى شيئا أو يدعو الله تبارك وتعالى شيئا فإن الله يعطيه لا تشك في ذلك لأن الله يقول أجيب دعوة الداع إذا دعت فإن الله يعطيه ويجيب دعاءه ولا بد فإنه ما من داع يدعو إلا والله يجيب دعاءه ولكن إجابة الداعي إجابة الداعي كما قلنا قد تكون بإحدى ثلاث خصال. طيب. إذا قال مثلا العبد اللهم أعطني كذا سأل مسألة خاصة اللهم أعطني كذا فإنه يجاب بإحدى ثلاث خصال. Donc ici par rapport à l'affaire concernant justement la réponse d'Allah, Al-Ijab, Allah il nous dit si il mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Vous voyez, ici les salaf ils ont fait le tafsir de ces versets là, d'accord. Et ils ont dit que déjà, premièrement, on a deux formes de dua. On a la dua qu'on appelle dua mas'ala. Et on a la dua qu'on appelle dua ibada. Donc la dua mas'ala, c'est une invocation. Le fait de demander à Allah quelque chose de précis. D'accord ? Oh Allah, donne-moi ceci et cela. Puis on a la dua ibada. C'est la dua qui va se faire à travers une adoration. D'accord ? Toi, quand tu fais la prière, d'accord ? Ça, c'est une dua, ibada. Et mas'ala en même temps, parce que dans la prière, tu invoques Allah et tu demandes à Allah. Mais c'est une dua qui est une adoration. D'accord ? Eh bien, ces deux formes de dua, elles rentrent dans ce verset-là. Ça veut dire qu'Allah, tabarak wa ta'ala, il répond à celui qui lui demande des choses, il répond. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il récompense aussi l'adoration de celui qui l'adore. Si bien sûr il respecte les conditions de l'adoration, de la validité de l'adoration, qui sont l'ikhlas ou le mutaba'a. Allah, il accepte. Et il rétribue, il récompense cette adoration. Donc, quoi qu'il en soit, tout serviteur croyant qui demande quelque chose à Allah tabarak wa ta'ala, ou qui adore Allah tabarak wa ta'ala, vous voyez, d'une adoration, et qui espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah lui donne. Et Allah tabarak wa ta'ala répond à son invocation sans aucun doute. La preuve, ce verset. La preuve, ce verset-là. Donc il n'y a pas quelqu'un qui demande quelque chose à Allah sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à son invocation. Mais cela peut se faire de plusieurs manières. Tayyib. Maintenant, un croyant qui demande à Allah quelque chose de précis, eh bien Allah va répondre à son invocation. Ne crois pas qu'Allah ne t'a pas entendu. Wallahi, il t'a entendu. Et Wallahi, il te répond. Maintenant, il peut te répondre de trois manières. Taïeb. Al-Oula, Mada, Imma an yu'ta aynu ma sa'al. Yu'ta aynu ma sa'al. Yaqul mathalan, Allahumma ahayyi li zawja salih. اللهم هيئ لي من أمري رشدا مثلا أو اللهم اجعل هذا الأمر خيرا لي فيجاب في السؤال ويعطى عين ما سأل أي يعطيه الله عز وجل زوجة صالحة ولدا صالحا مالا إلى غير ذلك. Donc la première réponse d'Allah tabarak wa ta'ala qui peut être faite, c'est qu'il te donne exactement ce que tu veux. Par exemple, tu dis, oh Allah, facilite-moi d'épouser une femme pieuse. Oh Allah, facilite-moi la droiture. Oh Allah, fais que cette chose, cette affaire-là soit un bien pour moi. Donc là, tu demandes quelque chose de précis, particulier. D'ailleurs, eh bien, Allah, il te répond en te donnant exactement ce que tu veux. Ça, c'est la première réponse d'Allah, tabarak wa ta'ala, qui est possible. Non.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
طيب الخصلة الثانية أن لا يعطى عين مساء، لا يعطى عين مساء، ولكن يؤخر له ذلك في الآخرة، فيكون جواب سؤاله في الآخرة، وهذا هو أعظم في بعض الأحوال. Deuxième réponse d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah ne te donne pas ce que tu as demandé. Tu as demandé une femme pieuse, il t'a donné une femme. Tu as demandé de l'argent, il ne t'a pas donné. Mais ne crois pas qu'il ne t'a pas répondu, il te répond. Donc s'il ne te donne pas, il se peut qu'il retarde ce bienfait-là pour l'au-delà. Donc tu as demandé cette femme, tu l'auras dans l'au-delà. Si tu ne l'as pas ici, tu l'auras dans l'au-delà. D'accord ? Et comme ils disent les ulama, Cheikh Saleh al-Sheikh, Fadallah, il dit cela est meilleur encore en vérité. Parce que les choses de l'au-delà sont meilleures que les choses de la dunya. D'accord ? Dans la plupart des cas. Al-Thalitha, أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل، أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل. فالعبد سأل ربه جل وعلا شيئا وقضى الله سبحانه وتعالى بحكمته وجلاله أن لا يعطي العبد عينما سأل، ولكنه يصرف عنه من السوء مثل ما سأل. وهذا قد جاء في الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح وغيره، قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها ماذا؟ أحسنت، إلا ما أعطى الله بها إحدى ثلاث خصال في الرواية، ثم ذكر الخصال الثلاثة السابقة، الخصال الثلاث السابقة. طيب، إذن الإجابة قد تكون إجابة للسائل وقد تكون إثابة للعابد كما ذكرنا، وإجابة السائل أعم من إعطاء عين المسؤول. طيب، donc troisième façon qu'Allah dont Allah peut te répondre. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de toi un mal qui est aussi important que ce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne demande à Allah quelque chose et Allah, de par sa sagesse, ne lui donne pas cette chose-là qu'il a demandé. Mais il te répond quand même. S'il ne te, comme on a dit, il ne te le retarde pas pour l'au-delà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éloigner de toi un mal qui est aussi important que ce que tu as demandé. Si tu as demandé une chose qui est grande, Allah, il va t'écarter de toi un mal qui est aussi grand que cette chose-là que tu as demandé. Subhanallah. Donc ne pensez pas, mes frères, quand vous invoquez Allah tabarak wa ta'ala, qu'Allah ne vous répond pas. Wallah, il vous répond. Wallah, il vous répond. D'accord ? Et cette croyance-là, elle ne vient pas de la tête d'Ibn al-Qayyim, ou de Cheikh al-Islam, ou de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhim, jama'in. Mais elle vient des hadiths. Des hadiths authentiques apportés par muslims et d'autres que muslims. Le prophète, il a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam ? Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah d'une invocation sans qu'Allah il lui donne, il répond à cette invocation-là, l'une de ces trois choses. Puis il a cité les trois choses qu'on a évoquées. Ah, pardon, bien sûr, une invocation qui ne comporte aucun péché, hein, ou qui ne comporte pas non plus des ruptures des liens familiaux. D'accord ? Mais si tu demandes une chose qu'Allah a autorisé que tu demandes, sache qu'Allah il te répond par l'une de ces trois choses-là. Soit il te donne ce que tu as demandé, soit il te le retarde pour l'au-delà, soit il va t'éloigner de toi un mal proportionnel à ce que tu as demandé. Allah. Et donc, al-ijaba, la réponse d'Allah dans ce verset-là, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Eh bien, on a vu de deux sortes. Soit il va répondre à celui qui lui a demandé quelque chose de particulier, soit il va rétribuer en bien celui qu'il a adoré à travers le jeûne, l'adoration, etc., etc. Et on a vu aussi que la réponse à celui qui lui a demandé quelque chose de particulier, « Oh Allah, donne-moi ceci et cela », on a vu que la réponse, yani, peut se faire de l'une par l'une de ces trois choses-là. Donc la réponse, elle ijaba, le terme ijaba en lui-même, il est vaste, il est large. D'accord ? Et le fait que Allah te donne ce que tu as demandé, c'est juste l'une des trois facettes de cette réponse-là. D'accord ? Donc on a vu que la réponse d'Allah à ton invocation, eh bien, était composée de trois manières, trois façons différentes dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala peut te répondre. C'est clair, les frères ? Alhamdulillah. Tabarakallahu fikum. Naktafi bihadha al-qadr. Ulu al-qadr, la valeur. Ulu al-qahr, la domination. D'accord ? Et ulu al-dhat, la hauteur de par son être, son soi. C'est bon ? Alhamdulillah. Wal-ilmu inda Allah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيراً.